Le journal, présenté par Hugo Charpentier.
Bonsoir à tous. Semaine après semaine, les manifestations se multiplient à Hong Kong, un mouvement populaire contre un gouvernement pro-Pékin qui semble sourd aux revendications. Une nouvelle fois ce soir, des débordements violents entre manifestants et forces de l'ordre. Les réactions indignées se multiplient après les arrestations massives en Russie, près de 1400 personnes interpellées en marge d'une manifestation à Moscou. L'Union européenne, les États-Unis, Amnesty International, tous dénoncent un usage disproportionné de la force policière. C'est désormais officiel, le décret mettant en œuvre la réforme de l'assurance chômage a été publié au journal officiel. Un nouveau règlement qui sera mis en application au 1er novembre, les détails dans ce journal. C'est la fierté de l'ancienne ministre de la Solidarité, Martine Aubry. La CMU fête aujourd'hui ses 20 ans. La couverture médicale universelle qui permet de soigner les plus modestes a été instaurée en juillet 1999. Et puis jour de fête en Colombie, c'est la première fois qu'un Colombien est en jaune sur les Champs-Élysées. Sauf accident, le jeune Egan Bernal devrait remporter le Tour de France 2019. Une ultime étape disputée en soirée, l'arrivée prévue peu après 21h. Après une nouvelle journée de mobilisation émaillée de tensions hier à Hong Kong, les manifestants étaient de retour dans la rue aujourd'hui pour une marche non autorisée. Le mouvement dure depuis 2 mois déjà. Une mobilisation à l'origine pour protester contre un projet de loi d'extradition vers la Chine. Encore une fois, des violences ont éclaté dans l'après-midi entre les militants pro-démocratie et les forces de l'ordre. À Hong Kong, on retrouve Simon Le Plâtre pour France Culture. Bonsoir Simon.
Bonsoir.
Encore une fois, Simon, la police a tiré du gaz lacrymogène, des balles en caoutchouc, mais loin de se décourager, au contraire, les manifestants ont plutôt tendance à se radicaliser.
Oui, c'est ça. Alors d'un côté, il y avait aujourd'hui des manifestants pacifiques rassemblés dans un parc du centre de Hong Kong. Aujourd'hui, ils chantaient ou écoutaient les discours de politiciens, tout était calme, mais quand on leur demandait ce qu'ils pensaient de la violence des manifestations, ils approuvaient de plus en plus, comme un constat d'échec. Leurs manifestations pacifiques à eux n'ont pas réussi à faire bouger l'exécutif autant qu'ils voudraient. De l'autre, il y a des manifestants plus jeunes qui semblent tous convaincus de la nécessité de l'affrontement. Aujourd'hui, la manifestation prévue a été interdite. Les manifestants se sont donc pris à plusieurs cibles officielles avant de converger vers l'ouest du quartier de Central. Et là, ce qui est frappant, c'est que tous les jeunes, des milliers de jeunes, étaient là pour en découdre. La plupart portent des masques, des casques et se protègent la peau avec du film plastique pour éviter la brûlure des gaz. Évidemment, tous ne vont pas au contact de la police, mais tous semblent être là pour aider ceux qui y vont. Bref, l'affrontement avec la police et la violence sont devenus des modes d'action acceptés parce que le gouvernement n'écoute pas le peuple. En discutant avec des manifestants équipés pour se battre, on constate leur détermination. Ils sont prêts à continuer autant qu'il faudra, même si la ville imposait un couvre-feu ou si l'armée chinoise intervenait. Parce qu'ils le disent, ils ne veulent pas que Hong Kong perde sa liberté pour devenir une ville chinoise comme les autres.
À Hong Kong, Simon Le Plâtre pour France Culture. Un attentat meurtrier en Afghanistan au premier jour de la campagne pour la présidentielle. 2 personnes ont été tuées et un candidat à la vice-présidence afghane a lui été blessé dans cette attaque ciblée perpétrée dans le centre de Kaboul. La responsabilité de l'attentat n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. La semaine passée, Kaboul avait déjà été touché par 3 attentats à la bombe consécutifs revendiqués par le groupe État islamique et par les talibans. 11 personnes avaient été tuées. Les raids aériens du régime de Damas s'intensifie dans le nord-ouest de la Syrie. 9 civils ont été tués aujourd'hui dans des bombardements dans la province d'Idlib, une région encore dominée par les djihadistes. Le pilonnage quasi quotidien sème la mort parmi la population depuis 3 mois selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En Birmanie, ce sont au moins 13 mineurs d'une mine de jade du nord du pays qui ont été tués aujourd'hui dans un glissement de terrain. Des accidents fréquents, notamment durant la saison des pluies. Une nouvelle réglementation prévoit en principe la suspension des opérations dans les mines au plus fort de la mousson. Mais malgré tout, des travailleurs restent sur les sites au péril de leur vie. Il serait donc très exactement 1373 personnes interpellées par la police russe hier lors d'une manifestation à Moscou pour réclamer la tenue d'élections locales libres. Un chiffre donné par l'ONG OVD Info. Il s'agirait alors du plus grand nombre d'arrestations depuis le mouvement de contestation de 2012 contre le retour au Kremlin de Vladimir Poutine. Des arrestations avant la manifestation, mais aussi pendant le rassemblement, avant d'être dispersées violemment par la police. À Moscou, notre correspondant Léo Vidal-Giraud.
Repoussés par un énorme dispositif policier, les manifestants se sont dispersés en plusieurs cortèges qui ont arpenté en désordre les rues étroites du centre-ville de Moscou, rendant difficile tout décompte précis. On estime leur nombre total à entre 3 et 10 000 personnes, un nombre considérable pour la capitale russe. Dans la soirée, le cortège a été finalement encerclé par la police qui s'est lancée dans une série d'arrestations systématiques, parfois très violentes. Plusieurs personnes se sont plaintes d'avoir été frappées au sol et étranglées, alors que les manifestants scandaient « Nous sommes sans armes ». Vers 21h, heure de Moscou, les derniers d'entre eux étaient évacués dans les fourgons de police. La plupart des personnes arrêtées ont été libérées dans la soirée, d'après les données de l'ONG OVD Info. Plus de 150 seraient encore détenus. Parmi elles, tous les leaders de l'opposition russe, arrêtés dès vendredi soir, samedi matin à la sortie de chez eux, ou bien pendant la manifestation. On s'attend à ce qu'ils soient libérés ce lundi dans la journée. En attendant, depuis leur cellule, ils appellent à poursuivre la mobilisation. Une prochaine manifestation est prévue samedi prochain et les autorités russes n'ont pas encore déclaré si celle-ci serait ou non autorisée. Dans le cas contraire, il faudra s'attendre à de nouveaux heurts et sans doute à une escalade des tensions.
À Moscou pour France Culture, Léo Vidal-Giraud. Et c'est dans ce contexte politique tendu que l'on apprend que l'opposant numéro 1 du Kremlin, Alexei Navalny, a été hospitalisé. Actuellement emprisonné pour avoir appelé à une manifestation interdite par les autorités, le célèbre avocat russe souffrirait d'une violente réaction allergique. Il présenterait un grave gonflement au niveau du visage ainsi que des rougeurs sur la peau, selon un porte-parole de l'opposition. La cause de cette réaction allergique demeure pour l'instant inconnue. L'accord de 2015 sur le nucléaire iranien peut-il être sauvé? Fragilisé depuis le retrait des États-Unis l'an dernier, le texte était au cœur d'une réunion extraordinaire aujourd'hui à Vienne, en Autriche. Des pourparlers qui se sont déroulés dans une atmosphère constructive, selon le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi. Le dialogue n'est donc pas encore rompu. À Vienne, les précisions de notre correspondante Isorias.
Ces dernières semaines, les Européens ont réitéré leur volonté de tout faire pour sauver l'accord, mais n'ont pas caché leurs préoccupations dues à la récente décision de l'Iran de s'affranchir de certains de ses engagements, en produisant notamment de l'uranium enrichi à au moins 4,5%, un niveau prohibé par l'accord. L'Iran, durement touché par les sanctions américaines, demande de son côté aux Européens de l'aider à contourner ces sanctions, en lui permettant notamment de vendre son pétrole à l'étranger. À ce sujet, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a mis en garde les Européens à l'issue de la réunion. Tout obstacle à la façon dont l'Iran exporte son pétrole va à l'encontre de l'accord sur le nucléaire, a expliqué Abbas Araghchi, faisant référence à l'arraisonnement début juillet d'un pétrolier iranien par les autorités britanniques au large de Gibraltar. Mais le dialogue n'est pas rompu puisque ce dernier a salué une réunion constructive aujourd'hui. Malgré les plaintes des deux côtés, les discussions ont été bonnes. Une nouvelle réunion de la commission conjointe pourrait être convoquée, cette fois au niveau ministériel dans les semaines à venir. Le temps presse en effet car l'Iran menace de s'affranchir d'autres engagements en septembre prochain.
Isorias. Après le naufrage qui a fait plus de 110 morts et disparus jeudi dernier au large de la Libye, le pape François appelle de nouveau les États à porter secours aux migrants en mer Méditerranée. La communauté internationale doit agir avec promptitude et décision, a dit le souverain pontife. C'était ce matin lors de la prière de l'Angélus sur la place Saint-Pierre. Et par ailleurs, en Italie, plus de 130 migrants toujours bloqués dans le port militaire d'Augusta. Le ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, répète qu'il ne les laissera débarquer qu'à condition qu'un plan pour les répartir dans d'autres pays de l'Union européenne soit acté. Les migrants arrivés en provenance de Libye sont donc coincés dans leurs embarcations depuis 3 jours. En France, une enquête ouverte après l'agression d'un couple homosexuel. Ça s'est passé dans la nuit de vendredi à samedi à Villeurbanne, près de Lyon. Le couple a été poursuivi en pleine rue, puis attaqué par plusieurs individus munis de barres de fer. Les victimes, frappées sur l'ensemble du corps, se sont vues prescrire 2 et 15 jours d'incapacité totale de travail. Les agresseurs, eux, sont en fuite. Les nouvelles règles d'indemnisation du chômage sont donc publiées aujourd'hui au journal officiel. Elles entreront en vigueur au 1er novembre prochain. Cette réforme est censée réduire la part des emplois précaires dans l'économie et créer de nouveaux droits. Mais elle est jugée sévèrement par les syndicats et le patronat est lui aussi partagé sur plusieurs points. Bonsoir Diane Berger.
Bonsoir.
Concrètement Diane, que contiennent exactement les nouveaux textes ?
Parmi toutes les mesures, l'une des plus importantes, c'est la création d'un système de bonus-malus contre les contrats courts dans 7 secteurs d'emploi. Si l'entreprise se sépare plus de ses employés que le reste de son secteur, sa cotisation sociale augmente et inversement, quand elle garde ses salariés, ses charges baissent. En contrepartie de cette mesure contre les emplois précaires, le temps de travail nécessaire pour être indemnisé sera allongé. Il faudra maintenant avoir travaillé 6 mois sur les 24 derniers mois, contre 4 sur les 28 derniers actuellement. Ensuite, les règles de calcul vont aussi changer pour ceux qu'on appelle les permittents. Les personnes affiliées à Pôle emploi qui travaillent de manière fractionnée, alternant contrats très courts et inactivité. Le montant qu'ils recevront chaque mois devrait baisser avec les nouveaux calculs. Autre mesure, la dégressivité pour les hauts revenus. Quand un salarié touchait plus de 4 500 € brut par mois, il verra son indemnité baisser de 30% au-delà du 7e mois. En revanche, les personnes âgées de 57 ans ou plus ne seront pas concernées. Enfin, l'exécutif ouvre la possibilité d'être indemnisé pour des catégories jusque-là exclues, les démissionnaires, à condition qu'ils aient travaillé pendant plus de 5 ans dans la même entreprise et s'ils ont un projet de reconversion professionnelle derrière, et les travailleurs indépendants placés en liquidation judiciaire. Ils auront droit à une allocation forfaitaire de 800 € par mois pendant 6 mois.
Diane Berger. Elle permet depuis 20 ans de soigner les plus modestes. Près de 6 millions de personnes en France bénéficient de la couverture maladie universelle complémentaire, la CMUC, qui garantit une santé gratuite donc pour les plus démunis, qui avait été adoptée par l'Assemblée nationale un 27 juillet 1999. Dans le Palais Bourbon, Martine Aubry, alors ministre de l'Emploi et de la Solidarité, parlait d'une avancée sociale majeure, une des plus importantes de l'après-guerre. 20 ans après, c'est vrai, explique Philippe de Botton, président de Médecins du Monde, mais ajoute-t-il, on pourrait faire encore mieux.
Ah oui, ça on peut le dire, oui, on peut dire que c'est une avancée sociale majeure qui n'a pas, à mon avis, depuis 20 ans d'équivalent pour l'accès aux soins et l'accès aux soins des plus précaires et de ceux qui ont le moins de ressources financières. Oui, c'est une avancée sociale véritablement majeure. C'est une très grande avancée qui malheureusement demanderait, à mon avis, à être un peu améliorée, même beaucoup améliorée, dans la mesure où il y a quand même un non-recours aux soins, un non-recours de ce droit dans 25% des cas. Et puis il y a surtout des angles morts, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, d'abord sans papier, des migrants et des gens en situation irrégulière qui n'ont pas droit à cette CMUC ou à l'aide à la complémentaire santé. Et puis aussi la grande exclusion, la grande précarité, ces gens qui sont dans la rue, les 100 000 personnes qui sont dans la rue et qui ont beaucoup de mal à accéder à cette CMUC. Pourquoi? Parce que il y a des barrières administratives, c'est pas évident de remplir le dossier. Les démarches sont relativement complexes et donc nous, ce qu'on demande, c'est que ce droit à la CMUC soit automatique en fonction des revenus et qu'il n'y ait pas de demande à faire, que ce soit totalement automatique.
Et c'est un anniversaire un peu particulier puisque le dispositif s'apprête à faire peau neuve. La CMU laissera en effet place en novembre à la complémentaire santé solidaire pour toucher davantage de foyers modestes. L'heure du verdict est arrivée sur les routes du Tour de France. Plus que 3 heures à pédaler et Egan Bernal, 22 ans, deviendra le plus jeune vainqueur après-guerre de la Grande Boucle et surtout le premier Colombien à rallier en jaune les Champs-Élysées. Le peloton vient de s'élancer pour la dernière étape depuis Rambouillet, arrivée prévue peu après 21h sur la plus belle avenue du monde. Un événement qui sera évidemment très suivi en Colombie, dans ce pays foot cycliste, c'est l'effervescence. À Medellín, Najet Benrabah nous raconte les préparations.
Vendeur ambulant de maillots aux couleurs de la Colombie, installation d'écrans géants dans les bars et restaurants et même dans les centres commerciaux, à Medellín, tout s'installe en douceur. Déjà hier, les amateurs de cyclisme avaient envahi tous ces lieux. Les médias font leur une sur le champion. Tous les détails sur sa vie, son parcours, la fête dans son village natal Zipaquirá, dans le département de Cundinamarca, mais aussi les réactions en pagaille sont étalées dans tous les journaux, les radios et les télévisions du pays. Caracol Radio, par exemple, la radio nationale de Colombie, titre Egan Bernal, le condor qui a conquis la France. Et le journal El Colombiano, Egan est une bénédiction de Dieu. C'est un jour historique pour la Colombie et personne ne veut manquer ce moment, d'autant que le cyclisme est le deuxième sport après le football pour les Colombiens. D'ailleurs, ils ont installé le même dispositif dans toute la ville que celui réservé pour le ballon rond. Et comme pour la Coupe du Monde de football, la musique et la fête seront de rigueur une fois la ligne d'arrivée franchie sur les Champs-Élysées.
Najet Benrabah, Medellín pour France Culture. La météo et tout d'abord la canicule qui se déplace. Ce sont désormais les pays nordiques qui sont en surchauffe. Suède, Norvège, Finlande, des températures historiques en Scandinavie. Dans le nord de la Norvège, par exemple, le mercure a dépassé les 35 degrés hier, égalant ainsi le record national établi en 1970. Et puis de son côté, la police finlandaise demande aux automobilistes de faire attention aux élans. Ils seraient de plus en plus nombreux à traverser les routes à la recherche d'eau pour se désaltérer. En France, en revanche, après les fortes chaleurs, le retour à des températures largement plus supportables. Une soirée agréable en perspective avec 18 degrés pour les minimales sur les côtes normandes et jusqu'à 28 degrés dans les Alpes-Maritimes. Un ciel ensoleillé sur une large partie du pays, excepté dans l'Alsace et le Jura, où des nuages gris provoquent encore quelques pluies faibles. C'est la fin de ce journal, une édition réalisée par Brice Garcia avec Anthony Thomasson à la technique.